On t'a appris l'allemand à l'école ou bien ailleurs? Ou les deux?
J'ai appris l'allemand à l'école, mais je crois que je l'ai pré-appris avec mes grands-parents. En tout cas, j'ai formé l'oreille avec les Suisses allemands et les grands-parents. Après l'allemand académique, je l'ai appris à l'école. Ouais.
Ouais. Mais t'as encore des restes de Suisse allemand?
Je comprends, des restes. Je comprends tout ce qu'on me dit.
Mais tu l'utilises plus trop maintenant?
Non.
Plus du tout.
C'est-à-dire que je l'utilise pour comprendre ce qu'on me dit quand on me parle suisse allemand.
Ouais.
Mais je m'exprime pas en suisse allemand.
Mais au niveau professionnel, comme ça, t'as des contacts réguliers avec le suisse allemand ou pas?
Oui, mais c'est un peu par période, mais ça peut arriver, ouais. Récemment pas. Après, si je dois m'exprimer en suisse allemand, je remarque que j'essaye de donner un accent à de l'allemand que je connais de l'école.
Ouais.
Je suis pas capable de parler le suisse allemand vraiment, par contre, quand je l'entends, je comprends, c'est une autre démarche.
Ouais. En gardant la grammaire.
Oui, parce que c'est la seule que je connais vraiment. L'autre, je comprends par atavisme, mais je sais pas structurer ma pensée en suisse allemand. Essayer de me tourner plus là, peut-être qu'il est trop directionnel, je sais pas.
Ouais. Et puis, au niveau des autres langues que tu as appris, tu les as appris comment?
En pratique, toujours. L'anglais, je ne l'ai pas appris à l'école. Je l'ai appris en voyage, toujours.
Ouais.
Et c'est rigolo que je ne l'ai pas appris avec des anglophones. Après, évidemment, tu vas revoir un peu la grammaire ou des choses au bout de quelques années, parce que t'en as marre, mais j'ai plutôt appris l'anglais en fréquentant des Hollandais et des Norvégiens, tu vois.
Et puis revenu sur la grammaire après.
Oui, mais bon, pas non plus. C'est pas non plus intensivement.
Ouais.
L'espagnol, pareil, dans la pratique.
Ouais. Le contact avec l'espagnol, c'était dans quel cadre? Enfin, le...
cadre quotidien, professionnel. Quotidien d'abord, cadre d'études aussi. Universitaire.
Sur place ou bien...
Oui. Je m'en suis avec des hispanophones.
Ouais, des natifs, ouais. Mais là non plus, il n'y avait pas. T'as jamais eu vraiment de grammaire formelle.
De nouveau, un peu par la suite, par curiosité.
Ouais, mais pas de prime abord.
Non, du tout.
Et puis comment ça s'est passé? En fait, t'avais pas du tout de base à la base, enfin au départ quand. T'as commencé à apprendre l'espagnol et l'anglais, par exemple. Comment ça se passait au début? Les premiers rapports avec les langues étrangères.
C'est la mélodie.
Dans quel sens?
C'est essayer de te faire au rythme et au son. Enfin, de travailler ça comme de la musique. Parce qu'au début, c'est un peu ça, quoi. Après, l'idée, c'est d'arriver à découper pour trouver des mots au milieu de la musique, mais c'est plutôt une démarche, justement, orale qu'écrite. Enfin, une démarche d'oreille.
Ouais.
De répéter une phrase 50 fois, j'ai l'impression que tu la dises bien, etc. J'ai trouvé des points types, un peu comme ça, qui font que ça marche.
Niveau plutôt alors donc beaucoup avec tout ce qui est intonation,
Oui, en tout cas en espagnol, parce que l'écrit à l'espagnol, ça pose beaucoup moins de problèmes pour quand t'es francophone et latiniste. Donc le gros défi, c'est d'arriver à être clair à l'oral. Surtout quand c'est un apprentissage quotidien, un peu comme un apprentissage d'érudition, quoi. Si j'avais appris l'espagnol pour lire Neruda dans le texte, je n'aurais pas procédé comme ça, mais.
Ouais. Mais tu l'as fait après coup.
Oui, bien
parce
sûr.
Que, enfin,
Oui.
Ouais, disons pour le départ, ouais.
Justement, quand tu retournes après à la correction, je veux pas que tu. Quand tu as le loisir de peaufiner, quoi. Mais dans un premier temps, c'est plutôt des préoccupations quotidiennes. Et pareil pour l'anglais. Avec la seule différence que l'écrit n'est pas forcément aussi évident, mais il y a une autre forme de simplicité. Donc ça. Mais là aussi, c'est plus des préoccupations quotidiennes, quoi, de communication immédiate. Pour l'apprentissage, après.
Ouais. Et puis. Tu utilises ta langue première en fait comme comment dire comme aide. Ça serait par exemple pour l'espagnol, ça peut passablement aider. Le français, bon, peut-être moins pour moi, bon, quoi que pour l'anglais, oui, mais peut-être moins si c'était du chinois ou japonais. Mais est-ce que tu as l'impression de passer par le français pour accéder, enfin au début en tout cas, pour accéder à l'autre langue ou pas?
Ah, au début, oui. Mais ça s'arrête assez vite quand même. C'est toujours un peu du bricolage comme ça après. Parce qu'il faut quand même trouver Enfin, l'idée, c'est d'arriver à trouver la logique qui est propre à la langue. Ou alors, en tout cas, à la manière dont la parlent les gens avec qui tu es, quoi. Si on admet que c'est pas la même géographiquement partout. Donc, c'est souvent un peu. C'est souvent piégeant de partir de ta langue au bout d'un moment, mais au début c'est évident, tu fais avec les références que tu as.
Ouais. Mais dans quel sens ça peut être piégeant? Enfin, il y a eu des fois où.
Mais dans le sens où. Tu vois, ça va au-delà des faux amis ou des associations d'idées, quoi, qui sont de toute façon. C'est les pièges un peu tout le temps de langue qui ont des origines. Mais c'est aussi que une langue est aussi un reflet il y a un reflet social dans une langue, dans une manière il y a des processus de pensée qui sont pas les mêmes, enfin de formulation qui sont pas les mêmes entre le français et l'espagnol. Enfin, c'est comme si tu essayais de parler l'allemand en mettant les verbes où tu les mets en français. On peut appeler ça une différence grammaticale, mais aussi une différence de comment tu structures ta pensée avant de parler. En espagnol, c'est un peu moins frappant, mais ça arrive quand même fréquemment. Que tu sois juste bloqué s'il essaye de retranscrire quelque chose de français à l'espagnol. Tu arriveras à te faire comprendre, mais c'est pas. Enfin, les gens ne l'auraient pas formulé comme ça.
Mais ça empêche rarement la communication, disons.
Ah non, ça c'est clair, alors ça tu bien sûr. Oui, tu peux parler en mettant tous tes verbes à l'infinitif, et puis en fait tu peux. Ça dépend en fait quelle est l'exigence de la communication. Par contre, effectivement, c'est une question d'exigence de la communication, puis de niveau, de finesse de ce que tu souhaites exprimer. Ou de malentendus possibles aussi.
Ouais. T'as eu affaire à des malentendus?
Oui, bah toujours, régulièrement. Au début, même après. J'ai pas d'anecdote.
Non.
Non, j'ai pas un exemple précis. En espagnol, on trébuche souvent sur les toniques et l'accentuation. En français, on accentue toujours la dernière. Il y a des mots qui peuvent changer selon l'intonation, mais il n'y en a pas beaucoup, il y en a un ou deux. Quoi. Mm-hmm. Ça peut créer des quiproquos. Après, si je les ai faits ou pas, je ne me souviens plus, mais c'est ça, c'est possible. Mm-hmm.
Et puis pour l'anglais, la même chose, bien. Donc c'était dans les voyages surtout. Ou avec les rencontres avec d'autres, des personnes non francophones, mais pas voilà, forcément anglophones.
Ça, c'est un peu le point commun. Donc après, c'est la langue, la facilité au voyage, quoi. Enfin, mm-hmm. L'accès immédiat, on va dire. Mais là, pareil, il y a aussi une immersion qui avait commencé. Avant, en anglais, j'avais eu quelques cours informels, quoi, avec mes parents, quoi. Mm-hmm. Toujours dans le cadre de voyage, un peu d'immersion à la télé, c'est quelque chose qui s'est fait très, très naturellement,
ouais.
Et qui s'est affiné après.
D'abord plutôt au passif, puis après... Mais là, ça reste ouais, comme une plutôt communication quotidienne.
Oui.
Ou bien tu as aussi un rapport avec la littérature ou, je ne sais pas si tu lis non. En anglais.
Oui, je lis en anglais, mais assez rarement.
Ouais.
Assez rarement. Je suis incapable de lire Shakespeare dans le texte sans quelques apports de vocabulaire, quand même. C'est pas... J'ai pas un niveau d'anglais pointu à l'écrit. Mais suffisamment quand même pour lire un roman, disons. Mais,
ouais.
Ce qui m'intéresse dans la. J'ai toujours été assez sensible à cette notion de niveau de correction dans la langue
mm-hmm.
et à l'aspect géographique. Pas tant que la correction m'intéresse pour avoir le sentiment de parler juste, mais c'est assez intéressant de voir comment tu adaptes ta manière de parler à ton interlocuteur ou à ton cadre. Et là, c'est des rapports différents selon que c'est ta langue maternelle. Enfin, ça n'a pas tellement un rapport avec le fait que ce soit ta langue maternelle ou pas, mais plutôt un rapport... avec ta place sociale à l'endroit où tu parles, à l'endroit où tu t'exprimes. Typiquement en français, donc grosso modo j'ai quand même une formation plutôt littéraire et des intérêts plutôt littéraires, donc j'ai un parler qui est plutôt conditionné par ce que j'ai lu
mm-hmm.
plutôt que ce que j'ai entendu. Et c'est un parler que j'adapte relativement peu à mes interlocuteurs. Alors c'est clair, je travaille pas avec des gens qui ont bac plus 8, quoi, mais en même temps, et je vois qu'il y a des différences de langage assez grandes, souvent. Et là, il n'y a pas forcément une grande nécessité d'adapter le langage, bon, un petit peu, mais en même temps, c'est pas... de pas être pédant, mais par contre, ce qui est rigolo, c'est que quand tu t'exprimes dans un endroit qui n'est pas le tien, tu fais beaucoup plus attention à ça parce qu'il y a une sorte de pression d'intégration, je sais pas, enfin, où tu. Ça, c'est une donnée que j'ai beaucoup découvert avec l'espagnol, en parlant avec des hispanophones, enfin, en étant dans des régions hispanophones.
Mmh.
Où là, ta principale priorité, c'est plutôt de correspondre précisément à l'endroit où tu es. C'est-à-dire que parfois, de par justement ton passif français ou latin, etc., il y a à la limite des choses que tu dirais de manière plus académique que... Ou alors tu as des évolutions de langage ou des fautes de langage que toi tu repères parce qu'elles ne se sont pas encore produites en français, par exemple, ou qu'elles sont plus minoritaires.
Mm-hmm.
Mais du coup, c'est toi qui as la situation du fautif, entre guillemets. Donc à la
Ouais.
limite, tu parles volontairement, tu fais volontairement certaines erreurs, sciemment vraiment certaines erreurs, pour pas... pour pas détonner dans la conversation.
Ouais.
Mais ça, c'est vraiment un rapport social, enfin, ça dépend d'avec qui tu parles, comment, etc. Mais ça, c'est une pression qui est toute différente quand t'es pas chez toi, en fait.
Mmh.
En tout cas,
En français,
je le vois comme
t'as
ça.
pas l'impression de le faire.
En français, beaucoup moins. Oui, il y aurait des adaptations au niveau de langue, évidemment, si je parle avec un Parisien ou un Lyonnais, ben je dirais pas attention, tu vas t'encoubler, quoi. Ou alors justement volontairement pour qu'on parle de ce mot-là, mais si mon intention c'est effectivement qu'il s'en couble pas, je trouverai un autre mot, quoi. Je dirais trébucher, tu vois. Sinon, je sais qu'il va tomber, en fait, etc. Voilà. Mais ça, c'est plutôt des détails de vocabulaire. Après, ouais, l'adaptation du niveau de langue, c'est assez... Et avec les accents aussi, quand tu es justement en Amérique du Sud, tu remarques assez vite que les gens parlent très différemment d'un endroit à l'autre, même dans un espace relativement proche, quoi, tu vois. Question d'extraction sociale aussi, les choses n'étaient pas. Qui est pas forcément plus marquée qu'en français, mais dans laquelle tu as plus tendance à te fondre parce que l'idée c'est que les gens continuent à te parler quand même.
Ouais.
Ici, quand tu es chez toi, il y a un rapport qui est un poil différent quand même, dans le sens où finalement t'es un peu plus dans ton bon droit, quoi. Si t'as envie de faire les imparfaits du subjonctif en parlant avec un gamin de 14 ans qui a MTV comme seule perspective linguistique, c'est plutôt un acte de puissance, tu vois. Enfin, c'est une manière de dire, voilà, moi j'ai envie de parler comme ça. Il y a un rapport de force, là, en tout cas un rapport affirmé. Quand tu es en position, toi, d'étranger, ben, tu tends plutôt à assimiler le vocabulaire des personnes avec qui tu parles directement. Quitte à changer de champ lexical 3 fois dans la même journée, parce que tu parles avec des gens d'extraction, de travaux ou d'études très différentes, mais tu essayes quand même de te fondre un peu plus. C'est quelque chose que je trouvais qui était assez rigolo, quoi.
Ouais. Mais tu penses que la communication peut en souffrir? Qu'à la limite, la communication risquerait d'être interrompue si toi tu gardes
Ah oui,
un
complètement.
autre registre,
Ouais.
plus qu'en français?
Non, pas plus qu'en français.
Mais
Ce
plus, ou
qui
bien
fait.
plus du fait que t'es
Voilà,
l'étranger.
ce qui fait vraiment la différence, c'est que c'est ta place dans l'endroit où tu parles, en fait, dans l'endroit où tu communiques.
Ouais.
C'est-à-dire, c'est l'effort que tu vas demander aux gens pour continuer à communiquer avec toi. Et aussi la place que tu as envie d'avoir, tu vois. Effectivement, en ayant une bonne connaissance du français et du latin, tu peux très vite. Souvent, d'ailleurs, les premiers mots qu'ils utilisent en espagnol, c'est des mots qui sont plus littéraires que les mots qu'utilisent les gens de la rue. Donc c'est relativement facile d'être pris comme une forme de pédanterie ou de condescendance, tu vois. Ou alors simplement des mots comme, à la limite, les gens ne connaissent pas. Parce que bah, comme en français, il y a plein de mots qu'on n'utilise pas quotidiennement. Et du coup, là, t'es pas forcément la situation de quelqu'un qui en sait plus. Mais vu que tu es dans une situation d'étranger, les gens partiront du principe que tu t'emploies des mots qui n'existent pas, ou que tu fais des erreurs de langue.
D'accord, ouais.
Tu vois, la différence, elle se fait là. C'est-à-dire que t'es... Enfin, c'est une autre différence, en fait, c'est pas exactement ça dont je te parlais avant, mais c'est vraiment une question de la place que tu veux avoir avec tes interlocuteurs. Et si l'idée, c'est que les gens continuent à te parler, ben, ça peut être bien de partager certains codes, en tout cas.
Mm-hmm.
Histoire que les gens soient au moins à l'aise et au mieux qu'on puisse se comprendre, quoi.
Ouais.
Là, c'est vraiment directement des adaptations linguistiques qui sont régies par la place que tu souhaites occuper socialement, quoi. En tout cas, socialement, ça, au sens vaste, hein, j'entends,
ouais.
Ça peut être l'espace de 5 minutes, mais pas...
Les rapports entre les personnes. Ouais.
Ou alors carrément de l'intégration, tu vois, après. Il y a des parlers populaires, il y a des parlers d'un quartier. Je pense qu'effectivement, si j'allais habiter, je sais pas, si j'habitais à la Goutte d'Or, à Marseille ou quoi, ben, je finirais quand même par parler, en tout cas avec mes voisins, comme on parle là. C'est pas sûr, mais il y a... C'est vraisemblable que tu adaptes ce genre de choses et que tu n'utilises pas ce registre lexical ou cet accent-là après, à ton travail, par exemple.
Ouais. Ouais, parce qu'il y a une idée d'intégration aussi, là, à ton lieu de vie.
Oui, une idée d'intégration.
Ou de...
J'aime pas trop le mot d'intégration,
ouais.
Mais en l'occurrence, c'est un peu ça. L'intégration, c'est une notion villageoise, donc c'est un peu ça, en fait. C'est un peu le côté de l'idiotisme, c'est quand même une référence de lien.
Mmh.
À la base d'appartenance, ou... c'est pas forcément revendiqué, mais c'est en tout cas sous-titré comme ça, quoi.
Ouais.
C'est pas forcément légitime non plus, mais les gens aiment bien ça. Ça peut donner
ouais, ça donne quand même un sentiment d'appartenance,
ouais. Mmh. Ouais,
quel que soit le groupe, si tu veux, soit géographique, soit social, soit
exactement. Puis ça peut définir une relation de confiance aussi.
Mmh.
Le parler jeune, par exemple, que sont en train d'assimiler les jeunes Suisses, à la base, ils ne l'utilisent pas quand ils communiquent avec des gens d'un autre milieu, ou beaucoup moins. Ou tu le sens parce que finalement, ils s'immiscent dans un truc, mais ils utilisent pas leur parler local, on va dire, en forme de groupe, quand ils doivent être ambassadeurs de ce groupe-là, enfin quand ils doivent parler à l'autorité, par exemple. Ou
À la base, c'est plutôt un code entre eux, enfin un code.
Mais à la base, c'est plutôt une manière de parler devant les gens, d'être compris.
Voilà, c'est ça.
Ou alors, ça c'est la question pratique, puis après la question... ce que j'imagine être la question pratique, parce que j'en sais rien, c'est des choses que j'ai pas vraiment étudiées. Mais...
Mm-hmm.
Et la raison pratique, ou après je te montre à la raison sociale, quoi, la raison d'appartenance finalement. Tu partages un code commun qui fait de toi partie de quelque chose, qui te fait être partie de quelque chose. Et là en l'occurrence, ben, quand. Et tu dois toujours faire face à ces... Quand toi, tu arrives dans un endroit où les gens utilisent beaucoup de codes spécifiques, t'as toujours le choix d'entrer dans ce jeu-là ou pas. Mais ça conditionne de manière très très ferme la position que tu vas avoir à cet endroit-là. Je pense que tu peux très bien, à la limite, même vivre, même partager le quotidien de gens qui parlent différemment pendant des années et que ça se passe très très bien. Mais tu auras quand même toujours le statut de quelqu'un qui parle différemment. Il faut savoir ce que tu en fais.
Mmh.
Avec le risque aussi que si tu débarques et que tu essayes de parler comme eux, ça peut être pris comme une manière de singer, tu vois, etc. Tu vas toujours un peu jouer là-dessus.
Mmh.
Et quand tu n'es pas chez toi, c'est une notion c'est une notion que j'ai en tête en permanence.
Mais c'est toujours... Mmh. Enfin, dans l'idée, c'est une décision consciente, ou est-ce qu'il y a une partie adaptation sans forcément tu te rendre compte, enfin, tu vois, simplement parce qu'ils utilisent tel mot et que tu vas pas forcément même si toi le mot de base que t'as appris est pas le même, je sais pas.
Oui, ça évidemment. Après t'as des choses qui viennent s'imprimer, tu vois, aider, ça c'est clair. D'ailleurs, souvent, vu que là, je peux parler en l'occurrence de l'apprentissage des langues étrangères, parce que c'est comme ça que c'est là surtout, en fait, où je suis sensible. Là, c'est même souvent le contraire, c'est-à-dire que tu commences par apprendre, vu que tu apprends la langue finalement avec les gens avec qui tu es, tu fais des fois, ce qui est plutôt rigolo, c'est que tu fais cohabiter des mots complètement incongrus, quoi. C'est-à-dire que tu utilises, il y a des mots finalement que tu connais que dans une manière de parler.
Ouais.
Ou qu'après tu réapprends de manière entre guillemets académique, ou alors que tu places là où il ne faudrait pas parce que tout à coup. T'as un mot qui est extrêmement argotique, que t'as utilisé depuis 2 ans pour signifier ce que tu voulais signifier. C'est difficile de remplacer après, tu vois. C'est plutôt ça, c'est plutôt anecdotique, c'est rigolo, quoi. Si tu vois, en admettant que, je sais pas, un hispanophone vient ici et puis que chaque fois qu'il désignait une porte, on disait que c'était une lourde, par exemple. Mais ça se trouve, 2 ans après, il utilisera encore ce mot-là en parlant avec le juge, quoi. Enfin, du coup, ça crée des situations étranges, mais ça, c'est plutôt bien. C'est normal, quoi.
Ouais. Bon, c'est normal que tu t'acquières le vocabulaire auquel tu es le plus confronté, aussi.
Ouais. Mais alors, justement, c'était par ça que je commençais, c'est que dans une langue étrangère, c'est quelque chose que j'ai consciemment à peu près toujours en tête, quoi. Comment tu parles avec qui.
Ouais. Ouais. Mais c'est vrai qu'après, il y a aussi les situations où si ton apprentissage a fait l'inverse, et que tu as commencé plutôt avec des livres, grammaire, etc., puis qu'après, tu te retrouves sur place, tu les as pas forcément.
Tu dois adapter,
mais je pense qu'il y a une période où peut-être même de se rendre compte qu'ils n'utilisent pas ce mot-là parce qu'ils comprennent quand même. Tu vois, par exemple pour l'espagnol, il y a quand même beaucoup de mots standards où après, au niveau régional, le mot standard, ils le connaissent aussi. Je veux dire, ça ne va jamais poser problème de communication.
Non, justement, c'est vraiment des problèmes de communication sociaux. À la base, ils vont toujours comprendre ce que tu leur dis, quoi. Oh, vraiment, tu vois, vraiment, faut taper haut, sinon, mais justement, ça conditionne vraiment la place que tu occupes, quoi.
Ouais.
Très clairement. Mais la compréhension du discours, pas tellement, quoi. C'est là que tu vois aussi si tout à coup eux adaptent leur vocabulaire, tu vois. Là tu vois aussi si y a moyen de communiquer ou pas, ou si c'est à toi de le faire, etc. En fait, il y a un enjeu social que je trouve intéressant, du coup c'est ce que je vois un peu en tête. Mais bon, voilà. C'est que là-bas je ferais l'effort de parler différemment à un chauffeur de taxi et à un. Un policier, etc. Enfin, il y a. Tu t'as beaucoup plus en français, j'estime avoir un vocabulaire relativement large. Et puis ça me plaît, disons, relativement, d'utiliser le niveau de langue que je souhaite utiliser.
Ouais, mais en français, tu fais aussi des différences.
Je fais des différences, évidemment. Ouais.
Tu vas pas. J'imagine que tu ne t'adresses pas forcément la même chose suivant l'interlocuteur.
À un copain qu'un policier, non, évidemment. Ouais. Mais ça, c'est plutôt des questions de
registre.
De registre, mais. Mais par exemple, je ne vais pas. Ça m'est déjà arrivé en espagnol de volontairement faire des ce que je savais être des fautes de grammaire. Pour pas détonner, justement.
Ouais.
Tu vois ? Alors que ça, c'est quelque chose qu'en français, je ferais pas. En tout cas, pas sciemment. pas sciemment.
Ouais.
Je vais pas écorcher mes mots juste pour.
Pour te fondre.
Juste pour me fondre. Ça, c'est quelque chose, c'est une nécessité que j'ai pas, quoi.
Ouais.
Au contraire.
voulais encore.
Non, bah c'est ça que je trouve intéressant au niveau de langue, en fait. Ouais. C'est que selon. Ça définit au moins la place. Donc, du coup, il y a toujours un enjeu quand même.
Bon, de toute façon, dans le langage, à la base. Ouais. Mais ouais.
Là, je vais pas forcer, par exemple, mon accent pour. Parce que, je sais pas. Parce que mon supérieur direct au boulot a un accent prononcé, tu vois, c'est des choses. Peut-être qu'après l'avoir côtoyé pendant 10 ans, mais je le côtoie pendant 10 ans, il m'aura peut-être collé 2-3 trucs, quoi. Est-ce que.
Ouais.
Ce sera un accent plus marqué, ça c'est possible.
Mais en français, tu garderas plus.
Mais j'aurais pas. Je sentirai jamais la nécessité d'essayer de séduire par la langue, tu vois, d'utiliser ça comme rapprochement. En français, beaucoup moins.
Mm-hmm.
J'estime que ça va passer par autre chose, quoi. Ce qui n'est pas forcément logique, hein, si tu le fais dans une langue, pourquoi pas dans une autre.
Oh, mais il y a peut-être aussi une question plus identitaire avec la langue maternelle qu'avec les langues que tu apprends après coup.
Ouais. Je ne sais pas si c'est identitaire, mais c'est en tout cas.
Ouais, peut-être pas.
Enfin, non, c'est une pression que je sens moins du fait d'être chez moi.
Mm-hmm.
Enfin, chez moi, c'est pas le bon mot, mais du fait. Du fait de ne pas avoir un effort d'adaptation à faire pour pouvoir communiquer, c'est bon. Ouais.
Mm-hmm. Plus reposant.
Ouais, c'est plus reposant.
Ouais.
Mais c'est moins intéressant parce que finalement, je pense que j'ai pas mal. C'est vraiment comme ça que j'ai le plus appris l'espagnol, c'est en voyant. Des niveaux de langue très différents, puis on a plein de mots complètement exotiques que tu n'utilises jamais, mais qu'en même temps c'est des niveaux de langue que je connais en français, donc il n'y a pas besoin d'apprentissage, quoi. C'est-à-dire que je comprends tout à fait ce qu'on me dit, même dans des accents très forts ou des idiotismes complètement extravagants, je les comprends, quoi. Au pire des cas, je les devine. C'est ce qui n'est pas le cas dans une langue que tu apprends, dans une langue étrangère, tu vois, où vraiment tu dois.
Mm-hmm. Oui, puis ouais. Réussir à les cerner aussi dans une langue étrangère.
Mm-hmm. Exactement.
Qui n'est pas toujours évident. Merci.